Chapitre 19 Les mains consacrées d'Ellen G. White. James R. Nix. Un jour, alors que j'arrivais chez ma grand-mère, elle sortait de sa chambre pour se rendre sur le balcon. Comme d'habitude, elle venait de passer un long moment à écrire. Elle n'écrivait pas toujours dans le même lieu. Je m'approchais d'elle et je l'accompagnais sur le balcon. Elle me dit alors « Grâce, pendant toutes ces années, le Seigneur a fortifié cette fidèle main droite. » La première fois qu'on lui demanda d'écrire, elle eut le sentiment de ne pas en être capable. Sa main tremblait depuis son accident. Elle pensa alors « Comment puis-je écrire ce que j'ai vu, toutes ces choses ?» Mais elle décida de faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, et elle essaya. Alors, le Seigneur fortifia sa main. Grâce White Jacques. Les mains d'Ellen White. Tout au long des 87 années de sa vie, Ellen White se conforma aux paroles du roi Salomon. « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Si vous parlez des mains d'Ellen White aux adventistes, beaucoup d'entre eux évoqueront probablement aussitôt son activité d'écriture. Écrire, 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 toujours écrire. Mais avec ses mains, elle faisait bien plus qu'écrire. Quand elle était enfant, Ellen White utilisait ses petites mains pour aider sa sœur jumelle, Elisabeth, à grimper au-dessus des rondins de bois et pour aider la vache de la famille à sortir du terrain boueux où elle était prise au piège. Les mains d'Ellen White. Oui, même quand elle était petite, Ella, comme l'appelait sa sœur jumelle, était toujours prête à mettre ses mains au service des autres. Elle aida littéralement des milliers de personnes. Que ce soit pour coudre un vêtement, tricoter une paire de chaussettes, soigner des personnes malades, qu'elles soient jeunes ou plus âgées, ou tout simplement inviter chez elles des personnes qui avaient besoin d'être hébergées temporairement, les mains d'Ellen White étaient toujours occupées à aider les autres, et elle y mettait tout son cœur. Quand Ellen White avait 9 ans, elle reçut au visage une pierre lancée par une camarade de classe en colère. Cet accident mit fin à sa scolarité, car sa main tremblait beaucoup quand elle essayait d'écrire, et les lettres semblaient se mélanger quand elle essayait de lire. En raison de cette blessure, Ellen White avait une déformation du visage, et elle savait donc ce que signifie être exclue. C'est certainement ce qui explique la compassion dont elle fit preuve tout au long de sa vie pour les pauvres et les démunis. Des mains qui tricotent. Quelques années après son accident, Ellen White et sa famille se joignirent au groupe de William Miller qui attendait le retour de Jésus en 1844. Souffrant toujours des conséquences de sa blessure, Ellen ne pouvait pas sortir et partager ses nouvelles convictions avec autrui. Cependant, elle pouvait utiliser ses mains pour gagner 35 cents par jour en tricotant des chaussettes, ce qui permettait d'acheter des livres pour que d'autres les distribuent. Comme des milliers de millérites, Ellen White fut terriblement déçue quand le Christ ne revint pas à la date attendue. Quelques semaines plus tard, Dieu lui donna sa première vision, la première d'une série d'une centaine de visions et de rêves prophétiques. Dans cette première vision, Ellen White comprit que si les membres de ce petit groupe gardaient les yeux fixés sur Jésus, ils finiraient par atteindre leur destination céleste malgré leur grande déception. Le Christ continua à occuper une place centrale dans sa vie. Elle comprit également qu'elle devait partager publiquement ce que Dieu lui montrait en vision. Plus tard, il lui fut révélé qu'elle devait écrire ce qu'elle voyait en vision. Quand elle essaya de le faire, elle constata que sa main était assez solide pour cela. Avant que son ministère ne porte de nombreux fruits permettant de juger de son authenticité, Ellen White tint une Bible dans la main à plusieurs reprises alors qu'elle était en vision, rappelant aux gens que même si Dieu parlait par son intermédiaire, sa mission ne consistait pas à concentrer l'attention sur elle et sur ses écrits, mais à exalter Jésus et sa parole, la Sainte Bible. En 1846, Ellen White donna sa main en mariage à James White, un jeune prédicateur adventiste engagé et dynamique. Ils travaillèrent ensemble jusqu'à ce qu'il décède à l'âge de 60 ans, en 1881. En 1849, les mains jointes d'Ellen White se joignirent à d'autres pour prier au sujet de la publication du premier exemplaire de The Present Truth avant sa distribution. Tout au long de sa vie, Ellen White publia un très grand nombre de livres et d'articles. Elle donna aussi par écrit beaucoup de conseils sur la création et le fonctionnement de nombreuses maisons d'édition dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Église adventiste du septième jour dirige plus de 60 maisons d'édition et filiales dans le monde. les mains dévouées de très nombreux employés, y travaillent dans le but de publier des ouvrages sur la vérité, destinés à être lus par les adventistes et à être distribués par des milliers d'évangélistes pour partager la bonne nouvelle du retour imminent de Jésus. Cette prière faite par Ellen White pour notre première publication fut suivie de très nombreuses autres prières au cours desquelles elle joignait les mains pour parler à Dieu, auquel elle s'adressait en disant « Mon Père » plutôt que « Notre Père ». Des mains exprimant des regrets. James et Ellen White eurent 4 garçons, Henry, Edson, Willie et John Herbert. 2 d'entre eux moururent prématurément. En fait, environ 50 ans après le décès du fils aîné d'Hélène, Henry, qui était décédé à l'âge de 16 ans, elle dit à sa belle-fille « Mais, si nous avions su alors ce que nous savons maintenant, nous aurions pu sauver Henry. » Et pendant qu'elle parlait, cette mère qui souffrait toujours se tordait les mains de tristesse. Avec des garçons à élever, un mari à soutenir et beaucoup de personnes à accompagner, Ellen White était bien occupée de ses mains. Un jour qu'elle était particulièrement fatiguée, elle attacha son fils Edson, qui n'était encore qu'un nourrisson, à sa poitrine pour l'empêcher de tomber au cas où elle s'endormirait, tandis que son mari conduisait leur voiture à cheval pour se rendre à un rendez-vous. Croyez-moi ou pas, ce n'était pas toujours James qui conduisait, c'était parfois Ellen. On la voyait fréquemment diriger un cheval, tenant fermement les rênes, dans les montagnes rocheuses du Colorado ou ailleurs. Quand les White arrivèrent avec leurs 2 premiers garçons à Rochester, dans l'état de New York, en 1852, ils n'étaient pas à l'aise financièrement. James ramena à la maison 2 vieux sommiers qu'il avait payés 25 cents, ainsi que 6 chaises dépareillées qui lui avaient coûté 1 dollar. Plus tard, il ramena 4 autres chaises qui n'avaient pas d'assises et qui lui avaient coûté 62 cents. Les pieds étaient solides, alors Ellen White fit les assises de ses mains. Plusieurs mois plus tard, en 1855, la famille déménagea à Battle Creek, et cette fois-ci, Ellen White utilisa ses mains pour rouler son fils Willie encore et encore sur la pelouse. Le jeune garçon était tombé dans un bac d'eau et avait failli se noyer en jouant au bateau avec des morceaux de bois. Les personnes présentes pensèrent que Willie était mort, mais Ellen White le roula sur le sol pendant un long moment afin que l'eau puisse sortir de ses poumons. Plusieurs minutes plus tard, ses efforts furent couronnés de succès. Quelques années plus tard, après avoir accueilli 35 personnes pour le dîner, Ellen White écrivit dans son journal « Nous sommes tous épuisés ». Une nouvelle vision à décrire par écrit. En 1858, James et Ellen White rendirent visite à des adventistes vivant à Lovett's Grove, dans l'Ohio. Le dimanche après-midi, James dirigea un service funéraire dans une école de campagne et Ellen adressa ses condoléances à la famille. Alors qu'elle parlait, elle eut une vision dont une partie concernait ce que l'on appelle aujourd'hui le grand conflit, une description de la lutte cosmique entre le Christ et Satan. 2 jours plus tard, alors qu'il se rendait en train de l'Ohio à Jackson, dans le Michigan, Ellen White donna plus de détails à son mari sur ce que Dieu lui avait montré en vision. James déclara alors qu'il fallait imprimer ce que contenait cette vision dès qu'elle aurait le temps d'écrire à ce sujet. Mais Satan avait d'autres plans. Peu de temps après leur arrivée à Jackson, alors qu'ils logeaient dans la maison de Dan et Abigail Palmer, Ellen White eut une crise de paralysie. Elle eut le bras gauche et la jambe gauche paralysés. Les croyants prièrent pour sa guérison, et le lendemain, elle était assez en forme pour rentrer en train à Battle Creek, où James l'aida aussitôt à se mettre au lit. Mais elle était déterminée à écrire le compte-rendu de ce qu'elle avait vu en vision. Au début, elle ne put écrire qu'une seule page par jour, et elle devait se reposer ensuite 3 jours. Mais elle reprit progressivement des forces, et sa main lui permit d'écrire plus de pages. La première édition du livre, qui porte aujourd'hui le titre « The Great Controversy », « Le Grand Espoir », fut publiée plus tard cette même année. Après avoir terminé le manuscrit du livre, Dieu montra à Ellen White, dans une autre vision, que la crise de paralysie dont elle avait souffert à Jackson était en fait une tentative de Satan de la tuer. La position d'Ellen White concernant cette bataille cosmique est le fil conducteur de la quasi-totalité de ses écrits et forme le cadre des enseignements de l'Église adventiste. Ainsi, il n'est pas étonnant que Satan ait voulu empêcher la publication de cet ouvrage. Quelques jours après l'organisation de la session de la Conférence générale de 1863, Ellen White eut une vision importante sur la santé. Parmi ce qui lui fut révélé et qui permet aujourd'hui aux adventistes du septième jour de former une communauté de foi dont les membres bénéficient d'une bonne santé générale, il y avait l'hygiène de vie, le sommeil, l'exercice physique, l'abstinence d'alcool et de tabac, et notamment aussi de viande. À cette époque-là, de son propre aveu, Ellen White était une grande consommatrice de viande. Plus tard, elle se souvint de sa lutte pour essayer de cesser de manger de la viande. Elle déclara « J'avais l'habitude de manger beaucoup de viande, mais quand je sentais la faiblesse m'envahir, je mettais mes bras sur l'estomac et je disais « Je n'en prendrai pas une bouchée ». J'absorberai une nourriture simple ou je ne mangerai pas du tout. Je n'avais aucun goût pour le pain. Je pouvais difficilement en manger plus qu'un tout petit morceau. Je m'accommodais facilement de certaines choses recommandées par la réforme, mais lorsqu'il fut question du pain, j'y fus vivement opposé. Pour réussir à changer, j'eus une véritable bataille à livrer. Aux deux ou trois premiers repas, je n'arrivais pas à manger. Je disais à mon estomac « Tu attendras jusqu'à ce que tu parviennes à accepter le pain. » Bientôt, je pus manger du pain, et même du pain complet. Mais maintenant, j'y ai pris goût, et mon appétit ne s'en trouve pas diminué. Les conseils inspirés d'Ellen White concernant le régime alimentaire et d'autres aspects du mode de vie, y compris son appel à créer des centres de santé de façon à aider les autres à retrouver la santé, sont un héritage important qui continue à avoir une bonne influence sur les adventistes et donnent un témoignage positif dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Église adventiste dirige environ 175 hôpitaux et centres de santé dans le monde, dans lesquels les mains bienveillantes de milliers de professionnels de santé agissent pour que, chaque année, des millions de patients bénéficient d'une meilleure santé. Ellen White écrivait encore, écrivait toujours. Plus tard, au cours de l'année 1863, alors qu'elle était en voyage avec son mari, elle écrivait tôt le matin et tard le soir, parfois même entre les réunions. Un dimanche après-midi, alors qu'elle était assise non loin de l'endroit où Andrews se tenait pour prêcher, Ellen White rédigea 6 pages de témoignages qu'elle lut aux personnes présentes après la prédication. Quand on lui demanda plus tard ce qu'elle pensait des paroles de frère Andrews, elle répondit qu'elle ne savait pas, car il y avait longtemps qu'elle ne l'avait pas écouté. Des mains économes. Ellen White était toujours généreuse avec les autres, mais elle était personnellement très économe. Lors de l'une de ses visites à la maison d'édition de la Pacific Press, qui se situait alors à Oakland, en Californie, elle aperçut un paquet de feuilles imprimées qui avait été jeté en raison d'une erreur. N'étant imprimée que d'un côté, elle demanda à ce que ces feuilles soient assemblées de façon à former un cahier qu'elle pourrait utiliser pour écrire. Elle rédigea donc l'édition de 1884 de The Great Controversy sur le côté blanc de ces feuilles. Aussi surprenant que celui puisse paraître, étant donné qu'Ellen White arrêta d'aller à l'école à l'âge de 9 ans en raison de sa blessure, elle insistait sur l'importance de l'éducation, et pas n'importe quelle sorte d'éducation. Les conseils qu'elle donnait dans ce domaine étaient basés sur les visions qu'elle avait reçues, et elle encouragea vivement les adventistes à créer des écoles centrées sur la Bible et sur le Christ, et mettant l'accent sur l'expérience pratique. Elle défendit ses idées par écrit, mais à l'âge de 68 ans, elle posa de ses mains la pierre angulaire du premier bâtiment de ce qui est aujourd'hui Avondale College en Australie. Elle donnait des conseils, mais elle s'investissait aussi personnellement. Aujourd'hui, les mains, le cœur et l'esprit de milliers d'enseignants dévoués contribuent à former des élèves dans plus de 7500 écoles dirigées par des adventistes dans le monde, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Écrire, écrire, écrire. Toujours écrire. Du temps d'Ellen White, les stylos à plume d'oie furent remplacés par les stylos à plume à réservoir, puis par les stylos à plume classiques. Un jour, elle envoya une lettre manuscrite très courte à son mari, car elle avait renversé de l'encre sur la première lettre qu'elle avait rédigée, et la tache d'encre la rendait illisible. Une nuit, il fit si froid dans sa chambre de l'école South Lancaster Academy que lorsqu'elle se réveilla le matin, l'encre avait gelé dans le flacon et elle ne put l'utiliser jusqu'à ce qu'elle fonde. Écrire, 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 toujours écrire. Les estimations varient quant au nombre de pages qu'elle écrivit au cours de sa vie. Le 16 juillet 2015, à l'occasion du 100e anniversaire de la mort d'Ellen White, le White Estate mit en accès libre sur son site ellenwhite.org les milliers de pages de lettres dactylographiées et manuscrites qu'il conserve. Pendant 11 mois en 1892, peu de temps après son arrivée en Australie, Ellen White écrivit 2500 pages alors qu'elle était quasiment incapable de faire quoi que ce soit en raison d'une forme sévère et douloureuse d'arthrite. Malgré cela, son avant-bras droit et sa main droite furent préservés et elle put donc écrire. En fait, c'est à cette période qu'elle commença à rédiger son livre sur la vie du Christ, The Desire of Ages. Alors qu'elle travaillait sur ce chef-d'œuvre spirituel, Ellen White écrivit à Olsen, qui était alors président de la Conférence Générale. « Oh, je me sens limité et incapable d'exprimer les choses qui brûlent dans mon âme concernant la mission du Christ. Je ne sais comment parler ou écrire au sujet du grand sacrifice expiatoire. Je tremble de peur à l'idée de minimiser le grand plan du salut en employant des mots ordinaires. » Elle tremblait peut-être de peur d'écrire des mots ne permettant pas de décrire de façon exacte le Christ et sa mission, mais sa main ne tremblait pas. Parfois, Ellen White débutait les lettres qu'elle rédigeait par des exclamations de joie ou de reconnaissance. À d'autres reprises, elle exprimait son chagrin et ses soucis. Elle donnait presque toujours des conseils. Un jour, elle écrivit ceci dans une lettre. « Faible et tremblante, je me suis levée à 3 heures du matin pour vous écrire. C'est Dieu qui parlait à travers l'argile. On dira qu'il ne s'agissait que d'une lettre. Oui, une lettre, mais commandée par l'Esprit de Dieu, en vue de placer devant vos esprits des choses qui m'avaient été montrées. Mes lettres et mes témoignages vous présentent ce que le Seigneur m'a montré. Il n'est pas un de mes articles qui se borne à exprimer mes propres idées. Il s'agit de ce que Dieu a fait défiler devant moi dans mes visions, de précieux rayons de lumière émanant du trône. » De sa main, Ellen White rédigeait des conseils parfois appuyés, mais aussi parfois des mots d'empathie et de compassion. Elle écrivit un jour « Je ne pense pas que votre cas soit désespéré. Si c'était le cas, je n'écrirais pas ces mots de ma main. » Les conseils qu'elle donnait étaient pleins d'espoir. À une autre occasion, elle écrivit « Alors même que j'écris, mes yeux sont remplis de larmes. J'essaie de vous transmettre les paroles prononcées par celui de qui je reçois toute instruction. » À la fin de l'année 1891, peu de temps après son arrivée en Australie, Dieu utilisa la main d'Ellen White de façon surprenante. Nathaniel D. Falkhead, un homme d'affaires respecté et qui était aussi franc-maçon et qui appartenait à diverses sociétés secrètes, devint adventiste. En raison de ses compétences professionnelles, il fut rapidement embauché en tant que trésorier pour la maison d'édition Echo Publishing House, mais ses responsabilités dans ces sociétés prirent le pas sur son intérêt pour l'œuvre de Dieu. Lors d'un entretien privé, Ellen White discuta avec lui de l'impossibilité pour lui d'être impliqué à ce point dans différentes organisations et d'être en même temps un chrétien consacré. Alors qu'elle répétait les mots qui lui avaient été adressés par un ange, à deux reprises, elle fit un mouvement de la main. Falkhead constata qu'elle avait fait 2 signes secrets, le deuxième n'étant connu que par les hauts responsables de l'organisation uniquement masculine à laquelle il appartenait, un signe qu'une femme ne pouvait donc connaître. Après avoir entendu et compris que ses agissements pouvaient lui faire perdre son âme, il fut convaincu que ce témoignage venait de Dieu. Peu de temps après, il écrivit à Ellen White qu'il avait mis fin à ses activités dans ses diverses organisations. Ellen White avait toujours les mains occupées. Qu'elle soit utilisée par Dieu pour transmettre un signe secret à une personne et la sauver, qu'elle soit occupée à travailler dans le jardin, à cueillir des fruits dans le verger ou à tenir la Bible lors du culte familial après le décès de son mari, les mains d'Ellen White étaient toujours actives. Une histoire datant probablement des années 1860 circulait dans la famille White, rappelant que James n'était pas très enthousiaste au sujet de l'activité de sa femme consistant à fabriquer des tapis avec de vieux tissus. Il lui demandait souvent de ranger les piles de chutes de tissus qu'elle récupérait pour faire ses tapis. Il semble qu'un jour, très frustré par la situation, James soit sorti de son bureau en chantant « Il n'y aura pas de tapis de chiffon là-haut, dans le ciel où tout est amour. Il n'y aura pas de tapis de chiffon. » Ellen White comprit alors. Elle renonça aux chutes de tissus et rassembla plutôt des pelotes de laine qui lui servirent à tricoter des chaussettes, parce que c'est aussi quelque chose d'utile qu'elle pouvait faire de ses mains. En fait, on raconte que lors de l'assemblée de 1888 de la Conférence Générale, Ellen White tricotait des chaussettes tout en écoutant Wagoner et Jones. Pourquoi pas? Après tout, bien des employés de l'église allaient faire face à un autre hiver glacial dans Europe du Nord. Ainsi, tandis que les prédications des frères Jones et Wagoner réchauffaient son cœur, Ellen White tricotait des chaussettes pour réchauffer les pieds de nos missionnaires. Ellen White avait une véritable passion pour la mission dans tous les domaines. Elle s'intéressait à ses voisins aussi bien qu'aux habitants de contrées lointaines. Elle plaidait en faveur d'actions d'évangélisation dans les grandes villes de ce monde. Des mains qui aident à guérir. Dans les années 1860 et 1870, James White eut plusieurs attaques cérébrales qui l'affaiblirent considérablement. Chaque attaque renforça la détermination d'Ellen White à faire tout ce qu'elle pouvait pour aider son mari à retrouver la santé. Après l'une de ces attaques, alors que la famille White vivait à Greenville, dans le Michigan, Ellen White demanda à son fils d'acheter 3 pelles, une pour lui, une pour elle et une pour son père, James. Quand elle donna la pelle à son mari et lui dit ce qu'elle souhaitait qu'il fasse pour retrouver la santé, celui-ci protesta. Ellen White eut de nombreuses ampoules aux mains à force d'utiliser la pelle dans leur jardin, mais ses efforts encouragèrent James à suivre son exemple. Plus tard, alors qu'elle s'efforçait toujours d'aider son mari à retrouver la santé, Ellen White demanda discrètement à leurs voisins de ne pas venir les aider à récolter leur foin. James fut très déçu, mais pas Ellen. Elle lui demanda de se tenir debout dans le chariot, tandis qu'elle et Willie ratissaient le foin et le lui lançaient. Plus tard, elle empila le foin que James lui apportait. Les passants étaient surpris de voir ceci, mais Ellen White était déterminée. Tout ce qu'elle pouvait faire de ses mains, elle le faisait avec courage. Percy Magan, un immigrant irlandais converti depuis peu de temps, vint vivre chez les White pendant une courte période. Observant le timide jeune homme tout en l'aidant à défroisser son manteau, elle lui dit « C'est un joli vêtement, mais je vois qu'il manque un bouton. Apportez-moi ma boîte à couture et je vais en remettre un. » Ses commentaires maternels et ce qu'elle fit pour lui de ses mains mirent rapidement le jeune homme à l'aise. Ellen White était aussi remplie de compassion pour les animaux qui étaient maltraités. Un jour, alors qu'elle conduisait leur voiture à cheval, elle aperçut un homme qui frappait sa petite jument toute maigre. Quand Ellen lui fit remarquer que celle-ci faisait de son mieux, l'homme retira la moitié de la charge qui se trouvait dans le chariot que tirait le pauvre animal. Il s'excusa auprès d'Ellen White et lui dit qu'il reviendrait plus tard chercher le reste du chargement. Nous imaginons volontiers Ellen White recoudre un bouton de ses mains ou aider les plus démunis, mais nous pensons rarement au fait qu'elle pouvait aussi caresser avec douceur ses chevaux ou mettre sa main sur la tête de l'une de ses vaches parce qu'elle venait de perdre un veau. Ellen White ne supportait pas de voir ses animaux maltraités, parce que selon ses propres mots, ils ne peuvent exprimer leur souffrance. Tout au long de sa vie, Ellen White mit en pratique ce qu'elle disait. Les adventistes du septième jour devraient être les premiers à glorifier le Christ devant le monde. Imaginez-la en train d'utiliser ses mains pour se hisser sur des tables rassemblées à la hâte dans un bar en Europe dans les années 1880. C'était le seul lieu que les adventistes avaient trouvé à louer pour qu'elle puisse prêcher. Plus tard, elle se souvint qu'après avoir pris la parole à Christiana, aujourd'hui Oslo, en Norvège, les gens lui serraient la main si fort et avec tant d'amour qu'elle ne parvenait pas à se dégager facilement. Ils lui dirent au revoir les yeux remplis de larmes, sachant qu'elle était sur le point de repartir aux États-Unis. Le contact qu'elle avait avec tous ceux qu'elle rencontrait, que ce soit près de chez elle ou dans des pays éloignés, était l'expression de ce qu'elle était vraiment. Quelques années avant sa mort, un imprimeur évangélique entra en contact avec Ellen White pour évoquer la possibilité de publier un livre dont les évangéliques auraient l'exclusivité. Elle accepta de rencontrer des représentants de la société à Elmshaven, sa maison située au nord de la Californie. Ils se réunirent dans la pièce où elle écrivait, au deuxième étage. Après avoir entendu leur présentation, elle prit son stylo pour signer le contrat qu'ils avaient préparé, mais elle le reposa aussitôt. Après avoir écouté de nouveau ces personnes présenter le projet, elle changea adroitement de sujet au lieu de prendre son stylo pour signer. Puis, Willie raccompagna ses hommes au rez-de-chaussée et remonta voir sa mère qui n'avait pas bougé. Il lui demanda pourquoi elle n'avait pas signé le contrat, car il l'avait vu prendre son stylo à la main, ce qui semblait indiquer son désir de le faire. La réponse d'Ellen White nous rappelle à quel point Dieu se soucie de son Église dans tous ses aspects. Elle répondit qu'au moment où elle avait pris le stylo, elle avait vu un ange derrière ses hommes lui indiquant de ne pas signer ce contrat. C'est donc ce qu'elle fit. Les livres d'Ellen White peuvent être publiés par la maison d'édition adventiste du monde entier. En fait, Steps to Christ, le meilleur chemin, a été traduit en plus de 165 langues, ce qui fait d'Ellen White l'auteur américain le plus traduit, hommes et femmes confondus. Aujourd'hui, elle est la femme la plus traduite au monde. Des mains fidèles jusqu'à la fin. Écrire, écrire, écrire. Toujours écrire. Cette activité eut des répercussions inattendues sur la main droite d'Ellen White. La plus jeune de ses petites filles, Grace, se souvenait avoir pris la main de sa grand-mère dans la sienne et avoir doucement caressé l'un de ses doigts qui était meurtri en raison du temps qu'elle passait à écrire. Grace pensait « Si grand-mère arrêtait d'écrire pendant un certain temps, je me demande si son doigt retrouverait sa forme normale. » Pendant plus de 70 ans, la main droite d'Ellen White fut épargnée de façon à ce qu'elle puisse écrire. On peut se demander ce que serait l'Église adventiste aujourd'hui, et si même elle existerait, si Ellen White n'avait pas fidèlement rédigé de ses mains les conseils que Dieu lui donnait. Réfléchissez à la crise théologique qui menaça de diviser l'Église en 1903. Le docteur John Harvey Kellogg et ses partisans désiraient vivement que l'Église accepte la position panthéiste du docteur telle qu'il l'avait présentée dans son livre intitulé « The Living Temple ». Un jour, lors du conseil d'automne qui se tint cette année-là dans une église de Washington, la discussion n'en finissait pas. Finalement, tard dans la soirée, Daniels, qui était alors président de la conférence générale, mit fin au débat. Rien n'avait été décidé. Il se rendit à pied au lieu où il devait passer la nuit, accompagné par le docteur David Paulson, l'un des soutiens du docteur Kellogg. Les deux hommes s'arrêtèrent sous un lampadaire et ils reprirent la discussion. Pointant Daniels du doigt, le docteur Paulson déclara « Vous commettez l'erreur de votre vie. Un de ces jours, vous roulerez dans la poussière et un autre homme prendra la direction de l'église. » Daniels répondit « Je préfère rouler dans la poussière en faisant ce que je crois être juste plutôt que de marcher avec les princes en faisant ce que ma conscience réprouve. » Les deux hommes se séparèrent pour la nuit. Daniels entra dans la maison où il logeait et il trouva des lettres d'Ellen White qui étaient arrivées plus tôt dans la journée. Elle lui écrivait de chez elle, alors qu'elle se trouvait bien loin de là, pour lui conseiller de ne pas adopter la position du docteur Kellogg concernant la nature de Dieu. Le lendemain matin, Daniels lut au délégué des extraits de trois de ses lettres. Cela permit de renverser la situation et le panthéisme fut rejeté. Daniels écrivit à Ellen White pour la remercier de ses conseils pertinents qui avaient sauvé l'Église. Elle lui répondit en s'étonnant que les lettres soient arrivées ce jour-là. « Peu de temps avant de vous envoyer les témoignages qui sont arrivés juste à temps, me dites-vous, j'avais appris qu'un incident avait eu lieu et qu'un bateau était entré dans un iceberg à cause du brouillard. » Quelques jours plus tard, elle vit en rêve le capitaine d'un bateau découvrant juste à temps qu'un iceberg se trouvait devant lui. Dans son rêve, le guetteur criait « Iceberg, juste devant !» Une voix autoritaire s'écria alors « Allez-y !» Accélérant le bateau, le capitaine percuta l'iceberg de plein fouet. La collision fit éclater l'iceberg, mais le bateau, bien qu'endommagé, parvint à atteindre sa destination. Ellen White termina son récit en disant à Daniels « Je connaissais le sens de ce rêve. Je savais ce que je devais faire. Le temps d'agir était venu. Je devais obéir aux instructions sans délai. Allez-y !» C'est la raison pour laquelle vous avez reçu mon témoignage au moment opportun. Cette nuit-là, j'étais réveillé à 1h du matin et j'écrivais aussi vite que je pouvais. Consciente du fait qu'elle allait être contrainte de renoncer à écrire, Ellen White écrivit en 1907. D'abondantes lumières ont été accordées à notre Église en ces derniers temps. Que ma vie se prolonge ou qu'elle arrive à son terme, mes écrits continueront à parler sans cesse et ils exerceront leur influence jusqu'à la fin des temps. Au printemps 2016, dans un numéro spécial de sa revue, l'institution Smithsonian inclut Ellen White parmi les 100 Américains les plus influents de tous les temps. Plus de 20 ans plus tôt, le 4 novembre 1993, le National Park Service du gouvernement américain fit de la maison d'Ellen White à Elmshaven un site historique, lui accordant le label National Historic Landmark, le label le plus élevé pour les sites historiques. Même si les adventistes apprécient ces marques de reconnaissance de la part de la société civile, c'est l'impact spirituel que les écrits d'Ellen White continuent à avoir dans la vie de personnes du monde entier qui compte le plus. L'Église mondiale peut remercier Dieu pour les écrits d'Ellen White qui peuvent à ce point transformer des vies et réfléchir à son héritage et son influence dans l'Église. Le 16 juillet 2015 marqua le 100e anniversaire de la mort d'Ellen White. Un siècle plus tôt, le vendredi 16 juillet 1915, Ellen White mourut dans sa maison d'Elmshaven, au nord de la Californie. 5 mois plus tôt, elle s'était cassée la hanche. Au cours des mois qui suivirent, elle s'affaiblit progressivement. Puis elle perdit conscience. Ses mains étaient au repos, le temps d'écrire était passé. Plusieurs membres de sa famille et de son équipe s'étaient rassemblés autour de son lit, sachant qu'elle allait perdre la vie. Près d'elle était assise sa deuxième petite fille, Mabel, qui tenait la main de sa grand-mère avec amour. Elle avait entendu dire que parfois, juste avant de mourir, une personne inconsciente pouvait revenir à elle quelques instants. Si c'était le cas, Mabel voulait que sa grand-mère sache qu'elle n'était pas seule. L'une de ses mains qui avait tant fait pour les autres au fil des années était maintenant l'objet d'un geste d'amour de quelqu'un qui voulait faire quelque chose pour elle. 6 ans avant le décès d'Ellen White, à la fin de la session de 1909 de la Conférence Générale, elle termina le dernier message qu'elle voulait adresser aux délégués qui venaient du monde entier. Sentant probablement que c'était la dernière fois qu'elle s'adressait à eux publiquement, elle voulut leur dire une dernière chose. Prenant la Bible qui se trouvait sur le pupitre, elle la tint en tremblant du fait de son âge et elle déclara « Frères et sœurs, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. » Puis Ellen White retourna s'asseoir. Ce sont les dernières paroles qu'elle adressa aux délégués du monde entier lors d'une session de la Conférence Générale. Écrire, 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 toujours écrire. Nous sommes invités à répondre à ces questions. Que voulons-nous lire? Qui voulons-nous croire? Par la grâce de Dieu, voulons-nous mettre en pratique les conseils donnés dans sa parole, la Sainte Bible, et dans les écrits inspirés qu'il nous a aussi donnés, par Ellen White, sa messagère?